Bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9, émission en direct exceptionnelle, 18h08 sur le 94.9. Et aujourd'hui, je prends l'antenne exceptionnellement pour vous parler d'un film qui sera diffusé ce soir sur France 3. Je suis en compagnie de Guillaume Pitard pour nous parler de son nouveau film qui s'appelle La dernière autopsie du Dr. Pearl. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
T'étais venu il y a quelques temps pour ton film sur la forêt des hommes. C'était la dernière fois qu'on s'était vu.
Tout à fait.
Nouveau film, film fait pour la télévision. Qui est le Dr. Pearl pour toi ?
Alors le Dr. Pearl, c'était mon arrière-grand-père et c'était le médecin légiste, on peut dire une espèce de rockstar chez les médecins légistes de son époque, qui en gros s'est occupé de toutes les plus grandes affaires criminelles de 1910 à 1960.
Comment est venue l'histoire dans ta famille ? Comment on t'a parlé de ton arrière-grand-père ? Comment on arrive à ce genre de sujet en disant « ton arrière-grand-père, il a fait des milliers d'autopsies ».
Bah, ça remonte, c'est surtout ma grand-mère, en fait, sa fille, qui nous racontait souvent des histoires complètement extravagantes, rocambolesques, médico-légales, qui à force de s'accumuler paraissaient presque incroyables. Et puis au final, j'ai pu en vérifier une bonne partie grâce à mes recherches.
Alors le docteur Charles Pearl est né en 1879, ses parents étaient avocats. Et ouais. Une partie de sa famille médecin, c'est ça ? C'était ça un peu les deux corps de métier qui étaient dans la famille ?
Oui, il y avait une dualité effectivement avec une partie de la famille qui était plus dans le droit et l'autre dans la médecine. Et il a réussi un peu à réconcilier les deux par le biais de la médecine légale.
Toi, t'as commencé à faire ce documentaire, comment ça s'est passé un petit peu la recherche ? Comment on fait des recherches sur son passé, sur la famille, etc.
Bah, on s'improvise un peu historien, donc on va farfouiller, on se fait un petit peu aider, hein. J'ai quand même eu quelques aides. Il y a des sites spécialisés comme Retro News, Criminal Corpus, etc. Mais essentiellement, moi c'est sur la BNF en fait que j'ai trouvé le plus de documentation, puisque c'était gratuit aussi. Enfin, j'ai trouvé un peu partout, hein, mais... Bah je me suis vite rendu compte que je ne pourrais pas référencer non plus, puisque à titre d'exemple, durant l'entre-deux-guerres, t'as plusieurs journaux qui sortent tous les jours, et c'est arrivé qu'ils soient cités jusqu'à 6 fois dans un seul journal, tellement il était devenu omniprésent. On l'avait même surnommé le docteur Monopole à l'époque.
C'était comment à l'époque les autopsies ? C'était le début des autopsies ? C'était quoi le début de la médecine légiste ?
C'était en plein essor en tout cas. C'était pas le début, hein, ça remonte à beaucoup plus loin. Mais effectivement, c'est en plein essor. En gros, c'est quand la médecine passait un petit peu d'un art à une science, et où les médecins légistes ont commencé à devenir actifs, à chercher vraiment des preuves par l'expérimentation, à démontrer. C'est ce qu'on appelle la preuve expertale en fait. Jusque-là, c'était plutôt sur les aveux que reposait. La justice, et là ça a commencé, la parole des experts a commencé à prendre de l'importance jusqu'à notre époque, où ça s'est encore plus développé forcément.
Avec la technologie même, bien sûr, l'ADN et compagnie. Comment s'est passée l'écriture du documentaire ? Combien de temps ça t'a pris ?
Juste, excuse-moi, enfin, du coup ça a donné lieu effectivement à des autopsies dans des circonstances qui seraient... Il était connu par exemple pour avoir toujours une cigarette à la bouche, et il y avait même un assistant qui était chargé de lui rallumer ses cigarettes au fur et à mesure, à la fois pour cacher l'odeur de putréfaction, et puis voilà, parce que c'était fait à l'ancienne tout simplement.
Ouais, il y a des photos, il y a des images d'archives dedans, où on le voit donc dans un amphithéâtre de médecine, avec des étudiants autour, la clope à la bouche. Justement, la cigarette, c'est vraiment ça, on le voit beaucoup, notamment là, on le voit sur les réseaux sociaux maintenant, avec la photo de ton aïeul, enfin c'est une photo de ton aïeul, et toi aussi avec la cigarette à la bouche pour montrer un peu la ressemblance. C'était sa marque de fabrique un petit peu, la cigarette, c'était...
Ouais, je sais pas si c'était sa marque de fabrique. Oui, mais en tout cas, il était connu pour avoir toujours la clope au bec, sauf au tribunal, là où il pouvait pas. Mais effectivement, ouais, ça faisait partie de ses marques de fabrique.
Là, hier, il y a eu la projection au cinéma Le Majestic, avant-première. Un film tourné pour la télévision, de le voir sur un si grand écran, ça fait quoi ?
Bah, c'était une sacrée émotion, surtout de le partager avec tous les gens qui ont aidé à le faire, et puis les gens de ma famille, famille de sang comme de cœur, hein, les amis aussi qui ont beaucoup aidé. Donc c'était un beau moment chaleureux. C'était assez rigolo aussi, parce que bon, le film est dédié à ma grand-mère, qui était la mère de Vieux-Moulin, un petit village là où j'ai grandi, et qui s'appelait donc Colette Pitard, et C'était le jour de la Sainte-Colette. Alors, on n'a vraiment pas fait exprès du tout. C'est tombé ce jour-là.
L'alignement des astres.
Voilà.
Alors, justement, ta grand-mère, on connaissait un petit peu l'histoire de ta grand-mère, notamment qu'elle avait pu, à l'époque, remettre un petit peu à sa place, notamment le criminel Mesrine. Du coup, la famille, vous avez tout le temps un passé avec ces criminels, ces bandits. C'est quoi un peu le lien avec ça?
Bah, je sais pas. Là, c'était vraiment un hasard. En tout cas, c'est assez rigolo. Mais oui, Mesrine a vraiment tenu l'auberge de Vieux-Moulin pendant l'époque de ma grand-mère. Il y a eu une petite confrontation rigolote. J'ai pas d'explication logique pour tout ça, quoi. C'est le hasard.
Toi, t'as pas d'entourage qui sont des criminels ou
À ma connaissance. Alors, ils se cachent bien.
On regardera dans ton entourage la prochaine fois. Comment s'est passée du coup l'écriture? Combien de temps ça a duré entre le moment où t'as eu cette idée, le moment où t'as pu commencer à tourner les premières images?
Tout s'est passé assez vite parce que pour des raisons économiques et de planning, on a pu commencer le tournage que assez tard et sur une durée assez limitée. Donc il a eu faire des choix stratégiques pour réussir à faire un beau film quand même dans ces conditions. Et du coup, j'ai commencé mes recherches juin-juillet. On a commencé à tourner un petit peu au mois d'août, mais surtout au mois de septembre fin septembre, je rentrais en montage.
Donc c'est toi qui fais la voix off, le but c'est toi le narrateur un peu de l'histoire. Également il y a Vincent Martin qui est du coup l'acteur qui joue ton arrière-grand-père. Le choix s'est fait naturellement, tu cherchais des camarades de jeu du coin comment ça s'est fait aussi ce choix de entre toi la narration et puis le fait d'avoir Vincent
Alors au tout départ, toutes les parties avec Vincent, en fait normalement ça devait être juste la voix du Dr Paul sur des dessins animés et des animations. Vu que ça n'a pas été possible mais qu'il y avait tellement de choses qui étaient importantes à lui faire dire, j'ai fait le choix de ce double discours qui est censé se compléter. Parce que finalement, moi, je n'ai pas beaucoup de rapport. S'il y a un point commun, on a souvent appelé la médecine légale art de faire parler les morts. Et finalement, le cinéma, faire des films, c'est aussi faire parler les morts d'une certaine manière. Donc, c'est ce que je me suis évertué à essayer de faire avec ce film, en lui rendant la parole. Et heureusement, j'ai eu la chance d'avoir Vincent Martin qui a accepté de faire le rôle et de se faire une fausse calvitie quand même, gros sacrifice capillaire. Et puis, c'est lui qui a incarné et qui a donné sa voix au Dr Paul dans le film.
Comment t'as pensé à la réalisation? C'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui jouait un acteur. Est-ce que le jeu d'un acteur, en général, tu fais des documentaires. Donc là, le jeu d'acteur, le fait de mettre justement du dessin animé, ce genre de choses, c'est toi qui l'as pensé? T'as été accompagné?
C'est un docu-fiction, c'est vrai qu'il a été pensé comme ça dès le début, et que la plupart de mes films professionnels, c'est du documentaire, c'est mon sixième documentaire long pour la télé, mais à côté j'ai quand même fait un petit peu de fiction quand même, et puis après j'ai aussi ma sœur qui est comédienne, c'était pas non plus complètement nouveau pour moi.
Là, ça s'est tourné à Compiègne. On retrouve des images des bibliothèques de Compiègne. Qui sont les protagonistes qu'on retrouve? On retrouve un médecin légiste, on trouve des historiens. Tu peux nous parler un petit peu des gens qui t'entourent?
Oui, alors le premier protagoniste qui m'a vraiment aidé à mettre en place le film, c'est le docteur Bernard Marc, qui est un médecin légiste, qui avait été contacté par ma grand-mère il y a une dizaine d'années et qui a déjà écrit deux livres sur le docteur Paul. Donc lui, c'était vraiment un partenaire indispensable. Il y a Sylvain Larue aussi, qui est un romancier spécialisé dans les affaires criminelles et la peine capitale, qui est en train d'écrire un gros volume aussi, une biographie du docteur Paul. Et puis un historien qui est une référence en affaires criminelles, qui s'appelle Frédéric Chauveau. C'était celui qui a écrit le plus de choses et les plus approfondies sur mon arrière-grand-père, donc le docteur Paul. Et après, il y a aussi un intervenant. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un historien qui disait du mal, en fait, du docteur Paul. On a gardé vraiment une image tellement positive de lui, parce qu'il a été extrêmement jovial, drôle, apprécié par le public comme par les journalistes, par sa capacité de vulgarisation, son côté bon enfant, gastronome, amateur de cocker, toujours le mot pour rire. Et puis voilà, je pense qu'il fascinait aussi de par son métier autour de la mort. Et Et puis voilà, je sais plus où est-ce
que t'as pris des notes, du coup. Je disais, par rapport le côté un peu que tu découvres justement avec l'historien qui veut bien dire entre guillemets du mal de ton arrière-grand-père, sauf qu'en fait il n'en dit pas du mal, il parle d'une période de la Seconde Guerre mondiale où en fait il réalisait des autopsies
Il a fait 2-3 autopsies de complaisance, enfin qu'il avait probablement pas le choix, et je pense que tout le monde aurait fait comme ça à sa place, et il a aussi fait des actes de résistance à côté. Mais bon, voilà, c'était quand même aussi un côté, il fallait montrer que c'était un être humain, qu'il avait aussi ses failles, autant au niveau professionnel que personnel. Donc voilà, je voulais quand même faire un portrait assez équilibré, assez juste.
Toi, c'est quelque chose que tu savais, c'est quelque chose que tu avais entendu, c'est quelque chose que tu as découvert au fil de l'histoire, au fil de tes recherches, c'est cette partie de la Seconde Guerre mondiale, les autopsies de complaisance?
Ah oui, non, ça c'est quelque chose que j'ai complètement découvert à l'occasion du film.
On va écouter un extrait de la programmation musicale de Graphite, on va écouter un extrait de Howling Joe, ça rentre en prog, c'est un groupe qui va jouer ce vendredi à Saint-Quentin, vous les retrouvez également dans le cadre du Blues Autour du Zinc. Et d'ailleurs, Howling Joe, un des membres, a fait l'UTC, vous allez voir, c'est vachement bien. Le nouvel album fait penser un petit peu aux Beatles avec un petit côté psychédélique, et là, donc là, c'est le titre Lost Song, à tout de suite.
Play words you never say, lost songs. You know what they're about. Shadow in the night, whispering a bite. She's still underneath my skin. She's in every song I sing. Oh, why couldn't I say it? She's still underneath my skin. She's in every song I sing. Oh, why couldn't I say it to her? Goodbye. You know I lost myself in a lost song. Forever still gone, that's it. On my
mars, c'est la 3e édition du festival Les Amazones Modernes, organisé par la Grange à Musique de Creil. Les Amazones Modernes, c'est un festival avec des concerts, de la danse, de l'humour et du partage dans 4 villes de l'Oise. Creil, Méru, Montaterre et Villers-Saint-Paul. Au programme, un concert de la chanteuse Claudia Meyer, de l'humour avec notamment Élodie Arnoux et bien d'autres événements. Et le 28 mars, le festival se clôturera au Théâtre de la Faïencerie avec un spectacle de danse de Sylvia Gribaudy. Les Amazones Modernes, c'est du 8 au 28 mars. Retrouvez toutes les informations et réservez vos places sur www.gam-creil.fr.
Et voilà, toujours en direct sur les ondes de Graphite 94.9, on émission exceptionnelle aujourd'hui pour parler du film, du documentaire qui s'appelle La dernière autopsie du docteur Paul, réalisé par Guillaume Pitard. Et à l'instant, on vient d'écouter donc un extrait de la programmation de Graphite, mais également Les Amazones Modernes, hein, qui est un festival qui a lieu à Creil. Là, le film sera diffusé ce soir à 22h pour les Noctambules. Et pour ceux qui veulent le voir avant, il est disponible sur la plateforme de replay France.tv.
Oui, je pense que vous pouvez, si vous tapez directement la dernière autopsie de Dr Paul, on peut trouver tout de suite le replay sur la plateforme. Normalement, ça doit être le premier lien. Et c'est à 22h50, si je ne vous dis pas de bêtises, sur France 3 Région.
Alors hier, on m'a dit qu'il y avait des enfants qui sont venus pendant la projection. Il faut éloigner les enfants. Il y a quand même des images d'archives, des choses...
Il y a quelques images choquantes, mais elles sont quand même amenées. On n'insiste pas trop. C'est souvent, on joue plus sur le côté un peu subliminal d'images qui apparaissent très rapidement. Mais il y a 2-3 images quand même un petit peu choquantes. Mais je pense que voilà, ça fait aussi... C'est pas amené de façon glauque.
Cru et glauque, ouais. Comment on construit un documentaire? Tu l'as dit, tu as fait des recherches, tu as contacté des gens. Mais comment on écrit le storytelling de l'histoire? Puisque là, on parle des autopsies, les autopsies célèbres. On parle de sa vie. À la fin, on découvre une partie un peu plus intimiste avec sa passion pour les chiens, le fait qu'il vienne se cacher un petit peu vieux moulin. Comment on écrit cette histoire? Comment tu l'as écrit, toi?
On fait des choix au fur et à mesure, en fonction de la matière qu'on a et de comment on veut l'exploiter. C'est-à-dire que moi, clairement, ce que je voulais, c'était raviver un peu la mémoire de cet ancêtre qui a été extrêmement célèbre et qui est complètement oublié depuis. Et pour ça, je pense il fallait que je raconte l'histoire de façon chronologique en sélectionnant, parce que forcément, je n'ai pas pu tout raconter, loin de là. Mais après, en faisant des choix, j'ai écrit ça un peu comme une fiction, hein, dans le sens il fallait qu'il y ait que ça soit fluide, qu'il y ait des rebondissements, garder un peu de suspense pour la fin, construire un peu un storytelling, raconter une histoire, tout simplement.
Laure Antoine, tu m'en parlais, c'est un 52 minutes, c'est un format pour la télévision. En général, au cinéma, c'est des formats un peu plus longs. Il y a une deuxième version possible, 90 minutes, ou c'est non envisageable?
Moi, j'aimerais beaucoup, parce que ça me permettrait de mettre tout ce que j'ai pas pu mettre dans le 52, et puis j'en ai encore pas mal sous le coude. On pourrait aller au bout de plein de... Enfin, voilà, en tout cas, c'est quelque chose que je voudrais, mais je sais pas du tout si ça va être faisable.
Comment on construit un documentaire avec les partenaires, les diffuseurs, avec France TV, il y a une autre chaîne spécialisée dans l'histoire qui va diffuser. Comment on les contacte? C'est quoi les échanges qu'on a avec ces gens-là?
Mais ça, c'est le travail des producteurs. Donc, je veux pas te dire de bêtises. Non, mais c'est par échange. Hein. De toute façon, ils ont des commissions régulièrement. Ils cherchent des projets.
Donc, tu leur envoies un pitch, c'est ça?
Ouais. C'est des dossiers. Oui, là, on est sur des dossiers, tout simplement.
Et donc, c'est quoi? Tu racontes l'histoire? Tu racontes une...
Tu vends tout le film. Ça commence avec un petit résumé, une note d'intention, note de réalisation, note de production, un séquencier. On écrit le film. En fait, ce qui est... Dans un film, il y a vraiment 3 étapes. Il y a l'écriture, le tournage et le montage. Et à chaque fois, ça donne 3 films totalement différents, puisqu'il y a les aléas de la réalité qui viennent s'y mêler.
Et toi, t'es content des 3 étapes, ou il y a une étape sur laquelle t'aimerais bien avoir plus de temps, si t'avais un peu...
Bon, on est toujours... On voudrait toujours... Enfin, moi, je suis surtout chef-monteur à la base, donc, et ça m'a aidé après dans la pratique de l'écriture. Moi, j'aime toutes les étapes, en fait, clairement, d'un film. Après, c'est le montage, forcément, celle-là où je suis le plus sensible et là où je pourrais passer le plus de temps, mais en fait, c'est extrêmement difficile. Alors, ça vient avec le temps, hein, c'est comme tout, mais au début, le montage, c'est difficile, quoi. C'est des choix à faire, et voilà, quoi. Il faut apprendre... à les faire, à avancer, et voilà, quoi. C'est l'étape finale, hein, d'un film, et je crois que c'est la monteuse de Martin Scorsese qui a dit on finit jamais le montage d'un film, on l'abandonne, quoi, en gros.
Donc c'est quoi le montage? C'est dans une cabine, en gros, t'es dans un bureau,
c'est ça? Sur
un ordinateur,
avec 2 écrans minimum, et puis voilà, c'est là qu'on construit l'histoire avec les images.
Il y a plusieurs versions aujourd'hui, la version que les téléspectateurs et les auditeurs pourront aller voir ce soir sur France 3, mais est-ce que du coup toi t'as plusieurs versions? Est-ce que tu, dans la construction du film, tu te dis peut-être que cette partie-là je devrais la mettre avant, ou c'est...
Non, les versions se font au fur et à mesure. Hein. Après, non, j'ai une seule version pour le film. Après, je sais que j'ai mis des choses de côté, notamment filmé pas mal de personnes aussi de ma famille. Et finalement, j'ai fait le choix de ne pas les utiliser dans cette version. Voilà, c'était un choix. Voilà, s'il y a une autre version un jour, j'essaierai peut-être de les réincorporer.
Il y a combien d'heures de rush ?
Bonne question.
ou en giga, écoute, si tu veux nous parler en giga.
Non, là, je ne veux pas dire de bêtises. C'est normalement, j'ai envie de dire un 52 minutes, c'est plutôt autour de 10 jours de tournage. Et là, on n'en avait que 5, donc c'est très peu. Par contre, j'ai compensé avec des très grosses journées, très remplies. C'est-à-dire que les interviews ont été très longues. ils ont été très courageux, les intervenants.
Et sur la partie documentation, puisqu'à la fin il y a énormément de documentation, énormément de sources qu'on peut voir à la fin du générique, comment ça se passe ? C'est toi qui les as choisis, c'est les intervenants qui les ont conseillés. Comment on fait justement aussi ce choix-là de la documentation, puisque là il y a une bonne centaine de
documents. Oui, mais il y a un peu tout, hein. Il y avait beaucoup d'archives que j'avais déjà en ma possession, mais qu'il fallait quand même déclarer, demander d'autorisation, etc. Il y en a d'autres qui ont été recherchés, d'autres qui ont été amenés par des intervenants. Après, il y a une logique économique, hein, tout simplement. On a une enveloppe, un budget à essayer de respecter.
Parce qu'à chaque fois que tu utilises une archive, tu dois payer un ayant droit ou une société ou ce genre de choses ?
La plupart du temps, ouais.
Donc toutes les archives vidéo, toutes les archives photos, c'est tu dois payer quelqu'un.
Oui, sauf cas exceptionnel, on a été quand même pas mal aidé. Ça c'est assez rigolo, c'est que tout le monde a oublié le docteur Paul, mais par contre dès que j'ai pris contact avec les archives de la police et que je me suis présenté en disant voilà, je suis l'arrière-petit-fils du docteur Paul, de faire un documentaire sur mon, c'est comme s'il était encore vivant. Ils m'ont déroulé le tapis rouge, ils nous ont offert. Des superbes archives du docteur Paul que j'avais jamais vues, hein, notamment celle que j'ai bien mis en avant, là où il fait la photo de comme les suspects, hein, de
anthropométrique, c'est ça,
ouais,
c'est
exactement.
Où t'es assis sur une chaise et puis tu dois te retourner pour voir.
Voilà, ouais, de face et de profil. Et puis j'ai récupéré aussi son comment on appelle ça déjà. Son casier judiciaire.
Voilà. D'accord, et alors il avait des choses... Non, il n'avait rien. Pas de conduite en état d'ivresse, en rentrant du... Non. Il n'y a pas de choses, ce genre.
Il a réussi à les cacher.
Là, sur les personnes qu'il a autopsiées, alors on retrouve la bande à Bono, Jules Bono, Jean Jaurès, Gaston Calmette, le président de la Paul Doumé, également, qui a été assassiné, Louis Renault. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de célébrités de l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces archives, les archives de famille, vous avez à chaque fois des traces de ces personnes ? Est-ce qu'il était un peu comme les serial killers, il gardait un souvenir de ces autopsies ?
Et il semblerait qu'un petit peu oui, mais il en reste pas grand-chose, à vrai dire, aujourd'hui. Puis on ne sait pas non plus si la partie qui a été fantasmée ou pas. C'est-à-dire que par exemple, j'ai le stylo de Landru. Bon, lui, c'est clair et net, hein, c'est estampillé. Après, il ouais, y a des choses un peu plus...
Landru qui est un serial killer français après la Seconde Guerre mondiale, c'est ça ?
Oui. Un célèbre serial killer français, un des premiers et des plus célèbres, hein, qui se débarrassait de ses femmes.
On a l'impression que c'est le pendant négatif de ton arrière-grand-père, en fait, le côté où lui fait son autopsie, du coup le côté positif, et que lui c'est un peu comme dans...
Alors c'est Pétiot, le docteur Pétiot.
Ah, c'est Pétiot, c'est celui... Ouais. Okay.
C'était les deux gros serial killers, en fait, de sa carrière et de cette époque-là. Landru, donc, c'était un assassin de femmes qui les faisait disparaître dans sa casinière. Et le docteur Pétiot, lui, il a profité de la Seconde Guerre mondiale pour voler en assassinant des gens, leur faisant croire qu'il allait faire passer vers l'Amérique du Sud. Et oui, c'est une des affaires qui a déstabilisé mon arrière-grand-père, parce que c'était un médecin. Une des premières choses qu'il a repérées dans ses victimes, c'était des traces de scalpel dans les cuisses, qui correspondaient en fait à la technique qu'utilisent la plupart des médecins légistes pour ne pas faire tomber leur scalpel entre deux opérations. Ils vont le planter dans la cuisse rapidement. Et il s'est demandé si c'était pas un élève à lui, etc. Et c'est vrai que Pétiot était quand même très particulier, et son exécution a marqué le docteur Paul, parce que voilà quoi, c'est la seule fois où il a vu quelqu'un se rendre à son exécution comme à une consultation de routine.
Ouais, et puis surtout, il pouvait s'identifier un peu du coup au personnage, quoi, contrairement
aussi, ouais.
À ses...
Ouais, c'était vraiment l'enfer. Lui, il tenait énormément à son image. C'était un personnage quand même de représentation, le docteur Paul, extrêmement positif. Et voilà, quoi, qui attaché aux bonnes œuvres, qui avait une image d'homme de cœur et d'homme d'honneur. Et là, il est tombé sur son... son alter ego négatif. Quoi.
Le chiffre de 160 000 autopsies, c'est un chiffre qui est confirmé ou c'est un chiffre, c'est du storytelling aussi?
Bah, c'est un peu les deux. Hein. Visiblement, il y a quand même une vérité. Après, ce qui est, c'est devenu l'apanage du docteur Paul. Bon, c'est, l'inconscient collectif, c'est l'homme aux 100 000 autopsies. Il faut savoir que ce décompte d'autopsies, c'était une pratique qui était déjà faite par les médecins légistes avant. Après, ce qu'on peut juste douter, c'est que voilà, quoi, 160 000 autopsies sur sa période de carrière, en gros, ça fait 7 à 8 autopsies, je crois, par jour. En moyenne, il a quand même traversé deux guerres mondiales. Et voilà, quoi, c'est juste que ça ne pouvait pas être des autopsies complètes et très longues, sinon ça n'aurait pas été faisable. Donc il a dû probablement additionner les constats de décès ou les autopsies rapides avec les vraies autopsies pour obtenir ce chiffre ahurissant.
Il y a des élèves à lui qui ont un peu fait perdurer son histoire, qui ont été un petit peu ses héritiers ou pas? Parce que comme il est mort dans les années 60, aujourd'hui on pourrait retrouver encore des médecins qui sont...
Le docteur Bernard Marc, ouais. qui n'était pas son élève, mais qui a gardé quand même un bel apanage médiatique, qui écrit, qui a de l'humour. Je l'ai surpris même en train de faire une ou deux blagues qu'il avait... Enfin, il ne savait pas... Mais bon, oui, il y a quelques points communs. En fait, il n'y a pas vraiment d'élève qui a pris vraiment la relève, mais j'ai envie de dire, il a tellement collé à l'image d'Épinal, du médecin légiste, que voilà, quand on voit maintenant l'humour noir du médecin légiste, le côté gastronome aussi, parler de bouffe en pleine autopsie ou ce genre de choses, c'est lui, quoi.
On retrouve également dans la pop culture, hein, puisqu'on le retrouve dans Le Commissaire Maigret. Le personnage existe dans Le Commissaire Maigret. Donc en plus de sa vraie histoire, il existe aussi dans des fictions. Tu t'es tapé tous les Commissaires Maigret à lire pour
Non, même pas, mais il faut. Mais oui, il était bien bon ami avec Simenon qui lui demandait conseil pour quelques aspects techniques de ses romans. Ils ont officier aussi tous les deux dans des jurys de prix littéraires autour d'affaires policières. Et du coup, c'est pareil, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps dans un Gottlieb. parce que Gottlieb a fait justement une parodie de Maigret et de Simenon qui s'appelait Inspecteur Bougré. Donc, presque tous les épisodes de l'Inspecteur, il y a le docteur Paul qui arrive et qui fait une blague gore, façon Gottlieb.
Sur la partie nourriture, on te voit un moment du coup à Vieux-Moulin, en train de on voit justement un dessin en plus de ça. Alors, c'est quoi ce restaurant? C'est un restaurant qui existe toujours, qui est toujours qu'officie toujours, hein?
Oui, c'est l'auberge du Daguet dans le centre du village. Et c'était alors à l'époque, là où mon arrière-grand-père habitait, venait passer ses week-ends dans ce village, donc de Vieux-Moulin. Ça n'était pas encore une auberge. Mais c'est là où il allait boire un verre régulièrement. Et puis ensuite, ils lui ont confectionné c'est devenu un restaurant, et ils lui ont confectionné cette recette en son honneur.
Cette recette est toujours à la carte ou il te l'a juste
recette
mis...
est à la carte, elle était remise à la carte à la suite du film. Après, je pense qu'il faut quand même la réserver à l'avance si on veut être sûr d'avoir les homards frais.
Parce que c'est du homard, c'est quoi? Tu peux nous redonner la recette?
C'est du homard grillé avec une sauce béarnaise rougie avec du corail de homard. C'est le sang des femelles homards, en fait. Et la particularité parce qu'il y a eu beaucoup de recettes qui ont été faites, qui étaient estampillées, hein, Dr Paul. Il fallait en plus demander une autorisation. Il faisait partie du club Karpinski. Je crois que j'écorche le nom, mais c'est quelque chose comme ça. Et puis le club des 100, etc. Et il y a eu pas mal de recettes pour lui, notamment le poulet docteur à la Pérouse. Et la particularité de ces recettes, excuse-moi, c'est qu'elles avaient toutes une sauce qui était censée évoquer le sang. Oui.
Alors pour revenir sur cette partie qui évoque le sang, c'est qu'on te voit faire une partie du film dans la maison du docteur Paul, donc maison qui n'appartient plus à ta famille aujourd'hui, mais qui est peint justement avec une couleur assez pourpre, rouge. C'est quoi? C'est vraiment le hasard qui fait ça?
Oui, voilà, ouais, c'est comme la Sainte Colette, hein, c'est des fois il y a les astres qui s'alignent. On avait fait un code couleur en plus noir-blanc avec juste le rouge pour toutes les animations, le rouge qui revient souvent dans le film. Et voilà quoi, quand ils ont repeint la
la maison,
la maison de cette manière, j'étais assez, assez content.
Et donc les propriétaires aujourd'hui sont également perpétués la tradition puisqu'ils sont médecins et avocats, donc ça reste un peu dans la filiation de son arrière-grand-père. Quoi.
Oui, c'est assez rigolo aussi. Ouais.
On va écouter un extrait de la programmation musicale de Graphite. Un vieux titre, c'est Danakil avec Enfant du Monde. On se retrouve juste après avec Guillaume pour parler du documentaire que vous pourrez voir ce soir qui s'appelle La dernière autopsie du Dr Paul. Et ça, ce sera sur France 3. C'est à quelle heure? 22h, combien? 40
22h50 ou 55. Et sinon, il est sur la plateforme directement en replay, effectivement.
Tu veux te faire entendre, leur modèle tu contestes. Tu as des rêves à défendre, de l'étrange qui dérange. Il y a tant à apprendre, la richesse est dans l'échange. L'essentiel n'est pas à vendre. Je suis, oui tu es, nous sommes enfants de la terre solidaire. Et nous recèle. Je suis, oui tu es, nous sommes enfants de la terre solidaire, de nos frères en somme. Je n'oublie pas que je suis, donc tu es, nous sommes. C'est l'amour que l'on donne qui fait de nous des hommes. Again.
Yo, connais l'ancien n'en bâle tonio. Change en référence, texte chacun sous loup, t'en en galale, l'en bâle de bobodo. Dougue ta hot, t'en gaffe, le seul donneur. Comme fou le vite, t'en gaffe, un bout de gueule. Let the MC, n'y en car, c'est ni freedom, la children of tomorrow, king of the king.
Tous enfants du monde, enfants de la terre.
Ici ou là-bas, le soleil a la même clarté.
Tous enfants du monde, enfants de la terre.
Tu te bats.
Danakil sur les ondes de Graphite 94.9. www.graphite.net. Et d'ailleurs, si vous avez pris l'émission en cours de route, elle sera podcastable. Et si vous voulez voir le documentaire ce soir avant tout le monde, enfin avant tout le monde, même s'il y a eu une avant-première hier, rendez-vous sur France.tv. On vous autorise de quitter la radio pour aller voir la petite lucarne avec la dernière autopsie du docteur Paul. Donc, ce documentaire de 52 minutes réalisé par Guillaume Pitard qui est avec nous pour nous parler du documentaire. Comment s'est passé les choix des lieux? On a parlé de Compiègne, les bibliothèques, on te retrouve à Vieux-Moulins, dans le restaurant. C'est la contrainte du temps?
Oui, bah, c'est des choix stratégiques, hein, encore une fois aussi. J'ai trouvé des trucs pour enfin voilà quoi. Après, voilà, mes recherches chez moi, ça se passe chez moi, tout simplement.
Normal. Ouais.
On avait quand même facilement accès à la salle des archives de la bibliothèque Sainte-Corneille, qui est quand même très belle et très intéressante. Donc ça, pour ça,
c'est le cellier, c'est celle qui est sous les bibliothèques.
Voilà, ouais. Exactement, c'est vrai que j'avais déjà repéré cette salle parce que je trouvais qu'elle était intéressante visuellement. Après les interviews, bah, j'ai fait aussi chez des amis médecins qui avaient des décos qui me plaisaient bien dans le cadre de ce film. Et puis bon, il y a pas mal de choses. On a failli tourner aussi la prison de Compiègne, ça s'est pas fait. On avait voilà, il y avait pas mal d'endroits aussi à Paris, malheureusement, où on n'a pas pu y aller à cause du planning où c'était pas disponible. On avait réussi à obtenir le droit d'aller tourner notamment au Palais de Justice. Malheureusement, il y avait un gros procès au moment là où on n'a pas pu y aller. Et on avait également un accès sur une partie historique du 36 quai des Orfèvres.
Qui a fermé en plus, qui ont été décalés en région parisienne.
Et là où il n'y a jamais eu de tournage, enfin un seul je crois, en 1980, un truc comme ça, le truc est vraiment resté dans son jus. Malheureusement, c'est pareil, il y a eu des travaux juste au moment là où on pouvait y aller, on n'a pas pu y aller. Donc on a fait des choix tout simplement stratégiques, et après on a plus accès sur les archives, tout ce qu'on n'a pas pu faire aussi en tournage.
Vous n'avez pas recherché un hôpital, un lieu d'autopsie?
Médico-légal aussi, hein, ouais. Ça faisait partie des endroits là où je voulais aller. Mais voilà, on n'a pas pu.
C'est compliqué pour les demandes, c'est long?
Oui, il faut effectivement pas mal de demandes. Et puis en plus, il n'y a plus vraiment le côté historique là-bas, quoi. Il y avait un petit coin qui aurait pu m'intéresser, mais au final, le jeu n'en valait pas la chandelle.
Sur le côté dessin animé, les dessins qui sont des dessins qui sont animés, hein, justement. qui c'est qui les a fait? Tu t'es entouré de qui?
Eh ben écoute, c'est un talentueux infographiste qui s'appelle Fabrice Lindsay, qui fait partie de la boîte de production Special Touch Studio qui a produit le film et qui a pas mal officié dans le jeu vidéo et l'animation. Et ben, j'ai eu beaucoup de chance. En plus, il est adorable et il a vraiment, vraiment fait un très beau travail. Ça et puis la musique du film, je trouve que c'est deux choses qui ont vraiment aidé à tirer le film vers le haut. La musique faite par un copain, Damien, Julien Langlais, qui fait la musique de la plupart de mes films et dont je suis très très content. Ouais.
Tu penses que du coup le Dr Paul avec ce film va avoir une nouvelle renommée? Est-ce qu'on va reparler de lui? Est-ce que tu penses avoir des nouvelles infos sur lui?
Bah écoute, j'espère pour moi, ce film c'était aussi une carte de visite, hein. J'espère faire d'autres projets, que ce soit en fiction, en livre, en BD, j'ai pas mal de projets en tête et en cours. Voilà, te dire maintenant, il est trop tôt pour te dire on va faire ceci ou on va faire cela. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis persuadé que la matière, il y a la matière en tout cas, et que ça mériterait d'être développé.
Une série Netflix, quoi.
Pourquoi pas?
En tout cas, ça, c'est à la mode. Hein,
Oui, c'est sûr. C'est, pourquoi pas? Après, je pense que ça a déjà été un petit peu proposé à Netflix. Peut-être pas comme il fallait. Mais voilà, après, ce qu'il faut, c'est quand même. Je pense qu'il privilégie aussi. Il y a des logiques d'économie. Là, on est quand même dans un truc historique
français.
C'est toujours un peu plus compliqué et un peu plus cher. Mais il suffit de trouver des solutions.
Là, sur les objets que tu as en ta possession, c'est qui les possède? C'est toi qui les gardes? C'est quoi?
Ouais, c'est moi qui les garde. La plupart, c'est moi qui ai été désigné pour l'instant pour les garder. Après, voilà, c'est des objets de famille qui restent ouverts aux autres.
Et c'était quoi? Elles étaient entreposées dans la maison? Elles étaient au grenier? Comment on garde ce genre d'héritage? Ben, parce que quand même, c'est une boîte d'autopsie avec des scies, des scalpels, des couteaux, ce genre de choses. C'est pas facile à mettre en décoration dans la maison.
Non, mais moi, quand j'étais tout, les souvenirs que j'ai quand j'étais tout petit dans la maison, justement de mes grands-parents, là où qui était donc la résidence du docteur Paul, tout ça, parce que moi, j'ai pas connu le docteur Paul vivant, il est mort en 1960, moi je suis né en 77. Mais il y avait toutes ces affaires étaient stockées quand même dans une pièce. Alors c'était une pièce qui m'attirait. On n'avait pas trop le droit d'y aller, c'était un peu flippant. Du coup, c'était un peu le jeu, quoi, d'y aller en cachette et sur quoi on allait tomber, ouvrir. Et oui, il y avait des photos assez choquantes. Bon, ça m'a pas empêché de pas être trop déséquilibré, en tout cas, j'espère. Mais par contre, je pense que c'est sa fille qui a dû vraiment avoir une drôle d'expérience parce qu'il, en tout cas, elle me racontait, ma grand-mère, que son père, le docteur Paul, l'emmenait partout dans des endroits pas vraiment adaptés aux enfants. Mmh. Après, il a eu toujours une approche. Je pense qu'il savait bien aussi dédramatiser ce genre de choses.
Sur quoi ? Sur la mort ? Dédramatiser le corps
oui,
humain
oui, le rapport ça, à la mort, point. Exactement. Ouais.
Là, aujourd'hui, le documentaire, on le rappelle, pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, diffusé ce soir sur France 3, France 3 Hauts-de-France d'ailleurs, pas France 3... C'est pas France 3 de France générale, quoi. C'est France 3
Oui, c'est France 3 Région et France 3 Hauts-de-France en particulier ce soir et sur la plateforme France Télé Générale, pour le coup.
Et là, hier, sur l'avant-première, il y a des gens qui sont venus te voir, des gens que tu connaissais pas, qui sont venus parler d'histoire de ton arrière-grand-père ou pas encore ?
Non, pas hier. Et ensuite, ça va passer sur toute l'histoire. Non, pas hier. Par contre, c'est quand j'ai commencé mes recherches, j'étais contacté. J'ai eu quelques surprises. Effectivement, il y a une dame assez âgée qui m'a contacté des États-Unis. Et qui était en fait la fille, ou je crois la nièce d'une de ses secrétaires. Et elle a gardé un souvenir assez marquant de lui. Pourtant, elle l'a vu que trois fois quand elle était toute petite. Donc elle m'a raconté deux, trois anecdotes sur lui qu'elle avait trouvé adorable. Il lui a offert un petit médaillon qu'elle porte encore aujourd'hui autour du cou.
Toi, quand tu étais petite, tu parlais de ton arrière-grand-père à l'école ?
Du tout. En fait, on se rendait pas vraiment compte. Non, on se rendait pas plus que ça. Hein. Non. Je saurais pas te dire. Après, oui, ça. Je pense que je l'ai jamais caché non plus. Hein. Je pense que j'ai été rapidement intrigué et un peu fier de lui, mais sans vraiment bien connaître.
C'était plus ta grand-mère qui était sur le devant de la scène, le fait d'être mère, d'avoir une vie publique.
Oui, complètement. Puis je pense qu'elle avait un caractère et un physique, là, pour le coup, elle lui ressemblait beaucoup. Hein.
Alors, Vieux-Moulin, vous êtes toujours à Vieux-Moulin, la famille est toujours à Vieux-Moulin.
Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, au final, la majorité des descendants sont restés dans le village.
C'est quoi l'attrait de ce village, en dehors de la forêt ? Est-ce que c'est sa tranquillité ?
Oui, je pense que c'est principalement la forêt. Hein. Après, je pense qu'il est, c'est un peu comme... moi, par exemple, il a fallu que je parte pour y revenir.
C'est souvent ça. Souvent, on voit que c'est bien là où on est quand on est parti ailleurs. Quoi.
Oui, voilà, ouais.
Et souvent, quand on part à Paris, on revient vite en province, quoi.
Oui. Après, moi, j'aime autant la ville que la campagne. Mais bon, du côté de Compiègne, c'est pas mal parce qu'on a la forêt, on n'est pas très loin de Paris.
Sur la fin du documentaire, on te voit au cimetière de Vieux-Moulin. C'était la première fois que tu allais sur... j'imagine peut-être pour faire des repérages avant, mais est-ce qu'on va se recueillir sur la tombe de son arrière-grand-père, parfois ?
Eh bien, écoute, c'est assez rigolo. Alors, pas spécialement sur la tombe de mon arrière-grand-père. J'ai déjà été me recueillir sur la tombe de ma grand-mère ou de mon grand-père que j'ai plus connu. Mais ce qui est, pour l'anecdote, le premier film que j'ai fait, ça fait 30 ans. J'avais 16 ans. Ça s'appelait « La mort ne m'effraie pas ». C'était une fiction et ça se passait. C'était l'histoire du gardien de cimetière de Vieux-Moulin. Donc on a commencé, mon premier film, ça se passait dans le cimetière de Vieux-Moulin. Et d'y retourner 30 ans après pour raconter l'histoire de mon arrière-grand-père, c'était quand même sympa, quoi. J'ai l'impression de boucler une boucle.
Aujourd'hui, il y a des lieux qui portent le nom de ton arrière-grand-père. Est-ce qu'il y a des salles d'autopsie, des salles de...
Non, pas du tout, parce qu'effectivement, c'est comme il n'a pas écrit de livre, ça n'a pas été un théoricien de la médecine égale. Il n'a pas laissé son nom, alors qu'il y a eu plein d'autres médecins qui étaient moins connus que lui. Mais c'était, par contre, c'était le plus grand praticien. Et on regrette qu'il n'ait pas fait un livre vraiment pour, sur toute la richesse de sa carrière. En revanche, il y a plein d'autres médecins qui ont laissé leur nom parce qu'ils ont vraiment travaillé plus sur la partie théorique.
Toi, tu as pris le médium de la vidéo. Est-ce que le médium, justement, de l'écriture, est-ce que tu pourrais écrire une biographie ou quelque chose sur ton arrière-grand-père ?
Oui, oui, c'est, j'y compte bien. Après, une biographie, c'est déjà en cours, et sur l'aspect, je sais que le côté archive et tout ça, je pourrais pas rivaliser, je pense, avec la personne qui est en train de le faire. En revanche, oui, j'ai d'autres projets aussi en écriture, et peut-être, pourquoi pas, essayer de, si j'arrive pas à rajouter, à faire un 90, là où je peux rajouter un peu plus ce que j'ai pas pu mettre dans le 52 minutes. Pourquoi pas essayer de le faire en livre ?
Tu disais tout à l'heure une bande dessinée ? C'est quelque chose qui t'attire, hein ?
Ah oui, la bande dessinée, ça fait très longtemps que j'y pense. Et en plus, c'est vrai que les parties... j'ai déjà pas mal d'idées en tête. Ça, je pense que c'est un des trucs que je vais essayer de faire assez rapidement. Après, ça, je sais que le monde de la BD est très dur aussi. Après, on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté.
Toi, c'est de faire le scénario de la bande dessinée. T'as déjà une envie. Est-ce qu'il y a un auteur qu'on peut contacter là?
Un auteur, non, parce que je vais être le.
Un dessinateur, quelqu'un qui va dessiner.
Tout dépend de comment ça va se passer, de comment ça commence à être un petit peu en pourparler.
D'accord. Okay.
J'ai plusieurs pistes, mais je sais pas. Il y a rien qui est sûr du tout, quoi. Il y a vraiment rien qui est sûr. Et une des pistes, enfin, en tout cas, moi je me dis pourquoi pas si j'arrive à trouver un accord, pourquoi pas retravailler avec le Fabrice Ninzi qui a fait les animations. Ce qui est assez rigolo, c'est que lui il est vraiment sur un trait beaucoup plus moderne, et à la base moi c'est pas trop mon univers. Au départ moi j'imaginais plus des dessins plus classiques.
De quoi, le côté belge, la littérature belge à la Tintin,
par exemple,
Agaffe, tout ça.
Pas spécialement belge-belge, soit le côté un peu plus influencé Tardi, soit okay. Le côté un peu plus influencé par les dessins aussi des affiches de l'époque, hein, des journaux de l'époque, etc. Mais au final, il faut reconnaître qu'il a réussi un petit peu à me faire changer d'avis, et je me dis que ça peut être pas mal aussi de le faire de façon plus moderne.
Là, justement, la modernité entre l'histoire passée, et là, on parle de 1880, c'est ça, je crois, la naissance de ton grand-père. Donc, en fait, il a commencé en 1910, 1920. Et le côté moderne des dessins, c'est quelque chose qui est venu naturellement, ou c'est vraiment le dessinateur qui t'a ramené comme ça ?
C'est le dessinateur, en fait, qui avait son style et qui a réussi à me convaincre. Tout simplement, puisqu'au départ, moi, je partais sur d'autres pistes. Et puis, j'ai bien vu que j'aimais bien comment il travaillait, quoi. Et je trouvais ça plus intéressant, au final, ce qu'il m'a proposé que ce que j'avais en tête au départ. Donc, ça s'est imposé tout seul.
Là, ce soir, c'est la diffusion du documentaire, La dernière autopsie du docteur Paul. Donc, c'est la fin d'un projet, peut-être le début d'un nouveau. Il était en train de bosser sur un nouveau projet, un nouveau film.
J'espère, hein. De toute façon c'est forcément aussi le retour, l'audimat, les retours qu'on pourra avoir sur le film, etc. vont aider ou pas pour la suite des choses. Et j'ai pas grand chose à te dire de plus que ce que je te disais juste avant, quoi. C'est-à-dire.
Et t'as pas de projet en cours actuellement, tu travailles pas sur
J'ai déjà écrit, j'ai des ébauches de pas mal de choses, ouais.
Sur quoi ?
Il y a rien qui est encore. Séries, docu, okay. Comme fiction. Livre, BD.
D'accord, t'en as plein sous le pied.
Pour l'instant, c'est encore embryonnaire. Après, en fait, moi, c'est ma manière
de travailler.
Des fois, en trois lignes, je peux me résumer une heure d'idées, quoi, si tu veux, quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai. Enfin, voilà, c'est encore le début, quoi.
La construction.
Et ça commence à se structurer pas mal dans ma tête. C'est ça que je voulais dire. Excuse-moi, je suis.
Et surtout les grandes, surtout les rencontres. Donc là, c'est souvent les rencontres qui font la suite.
Oui, tout à fait. Ouais. Les opportunités à rencontre, c'est très important dans ce métier, effectivement.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Émission un petit peu exceptionnelle puisqu'on a pris l'émission en direct. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous découvrez une nouvelle émission. émission sur les ondes de Graphite. Ce sera le deuxième épisode de Léochenor, une émission qui sera quinzomadaire. On vous rappelle le film de Guillaume qui sera diffusé ce soir sur France 3, France 3 Hauts-de-France. La dernière autopsie du Dr Paul, que vous pouvez déjà aller voir sur la chaîne de replay ou le site de replay sur France 3, France.tv. Merci beaucoup Guillaume, et puis avec plaisir pour te retrouver pour des nouvelles aventures ou peut-être un nouveau film.
Un grand merci, oui, j'espère, à bientôt.
Allez, très bonne soirée, et puis restez-nous fidèles. On écoute, pour terminer, Jalan Ngonda, et il jouera au festival Le Blues Autour du Zinc. Il y aura une émission qui va arriver très prochainement avec le directeur du Blues Autour du Zinc. Vous allez voir, c'est très beau, c'est de la soul, et c'est très bien pour commencer ce début de soirée. Allez, bonne soirée, à bientôt.